Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes. Mes chers auditeurs, c'est bien évidemment Bartoli Time. Un Bartoli Time où, comme d'habitude, nous allons revenir avec précision, enthousiasme et toujours la petite pointe d'humour qui nous caractérise sur les sujets brûlants du week-end. Il y en a eu énormément, que ce soit du foot, du tennis, du rugby. Bref, un programme extrêmement chargé. C'est le moment d'ailleurs où j'accueille mon acolyte, mon compère d'une heure pendant cette émission, monsieur Jean-Christophe Drouet. Bonsoir JC, comment vas-tu?
Bonsoir madame Marion Bartoli, très bien et toi, tout va bien?
Impeccable.
Très heureux d'être avec toi de nouveau pour un nouveau numéro
mais
de Bartoli
oui,
Time. C'est vrai
sûr.
Qu'il s'est passé tellement de choses ce week-end, on a tellement de choses à vous dire et puis aussi se projeter Marion sur PSG Barcelone dans 3 jours
mais
en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors au programme ce soir, évidemment, la une de Bartoli Time. Incroyable Mathieu Van Der Poel qui réalise le doublé sur Paris-Roubaix. Nous serons en direct de Roubaix dans quelques instants. 19h20, direction Toulouse. Le Stade Toulousain qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions Cup. 19h30, Marion, nous irons à Monte-Carlo où nous attend Eric Salio, notre envoyé spécial. Passe de bonnes vacances, hein, Eric Salio, hein, souvent dans des endroits assez sympas.
On va pas le perdre.
Il a rencontré Novak Djokovic aujourd'hui. Et Marion, tu veux aussi revenir sur le forfait de Rafael Nadal. Et puis 19h40, J-3 avant PSG Barcelone. On vous donnera toutes les dernières informations concernant le PSG. Et puis sachez que le président du Havre, Jean-Michel Roussier, qui s'est étranglé en voyant la compo de Luis Enrique hier face à Clermont,
oui,
parlant de manque de respect, il sera...
Absolument.
Dans Bartoli Time, il sera ton invité, Marion, le 32-16, évidemment, pour réagir à cette émission. Tu veux un petit jeu aussi, Marion?
Mais bien sûr, toujours un petit jeu.
L'expérience.
On est généreux, tu le sais bien.
L'expérience RMC Barcelone-PSG. Attention, ce n'est pas pour le match aller, c'est pour le match retour, le 16 avril prochain. Nous vous offrons le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant la rencontre et bien sûr votre place pour la rencontre. C'est le moment de vous inscrire. Vous envoyez tout de suite PSG au 732-16. PSG au 732-16. Votre place pour Paris Saint-Germain, Barcelone, Barcelone, PSG se gagne uniquement sur RMC. T'es prête Marion?
Archi prête.
Allez,
on
tout
y
de
va.
Suite, le chef-d'œuvre de Mathieu Van Der Poel.
L'enfer, c'était pas pour lui aujourd'hui, c'était pas pour Mathieu Van Der Poel, c'était pour les autres. Le paradis pour Mathieu Van Der Poel, le paradis pour le champion du monde qui va rentrer un petit peu plus dans la légende aujourd'hui. Y a-t-il vraiment débat pour Mathieu Van Der Poel? Fait-il partie de la légende? Je crois que oui, je crois qu'aujourd'hui on peut le dire, le premier champion du monde a réalisé un tel doublé et un doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix inédit depuis 2013. Il écrit chaque jour un peu plus la légende du vélo, Mathieu Van Der Poel, qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il ne soulèvera pas son vélo cette fois-ci, les deux bras levés comme celui qui domine le vélo et les classiques de la tête et des épaules. Le 6e monument de Mathieu Van Der Poel, tout simplement le meilleur coureur de classiques de notre époque.
RMC, la une de Bartoli Time.
Ah, les frissons en écoutant RMC.
Absolument.
Cet après-midi au commentaire Arnaud Souk, fantastique Mathieu Van Der Poel qui réalise le back-to-back à Roubaix et le back-to-back Tour des Flandres Paris-Roubaix, 6e monument dans sa carrière, une performance hors norme encore aujourd'hui Marion, où le champion du monde a écrasé la course partant seul vers la gloire à 60 km de l'arrivée. Avant de retrouver Arnaud Souk en direct de Roubaix, Marion, tes premières impressions? C'est vrai que même s'il était favori, on ne s'attendait pas à une telle démonstration.
Totalement, moi absolument estomaqué par la performance de Mathieu Van Der Poel. Non seulement il part effectivement à 60 km de l'arrivée seul dans le secteur de Dorchy, on se dit quand même 60 km, ça nous paraît un peu beaucoup. Et non, il arrive à faire cavalier seul à 15 km de l'arrivée. Il avait 3 km d'avance sur ses concurrents. C'est vous dire la domination écrasante de Mathieu Van Der Poel actuellement sur les classiques. La semaine passée, déjà au Koppenberg, il était parti seul à 45 km de l'arrivée. Et la même chose, plus personne ne l'avait revu. Alpecin aussi réalise un début de saison absolument incroyable puisqu'ils ont remporté les trois premiers monuments de l'année. À Milan-San Remo, c'est Van der Poel qui quasiment offre la victoire à Philipsen sur le sprint final. Et puis bien sûr le back-to-back, comme tu l'as dit, le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix. Est-ce que Mathieu Van der Poel, et ça j'aimerais vraiment poser la question à Arnaud Souk, ça m'intéresse énormément, est-ce qu'il a la capacité et les qualités pour aller gagner Liège-Bastogne-Liège face à Pogacar, où là il va y avoir un duel qui à mon avis va faire saliver tous les passionnés de vélo. Ça va beaucoup m'intéresser d'avoir la vision d'Arnaud, mais seulement trois coureurs avant Mathieu Van der Poel ont gagné Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Peter Sagan bien sûr en 2018, Bernard Hinault en 81 et Van Looyen en 62. Donc c'est pour vous dire l'exploit encore une fois qu'a réalisé aujourd'hui Mathieu Van der Poel. Et puis enfin, il a battu un record de vitesse. Il était à 47,8 km/h de moyenne sur les 259 km de la course, qu'il a terminé en 5h27 et 58 secondes. Bref, tout simplement absolument hallucinant.
Oui, c'est pas juste une victoire, hein, quand on pouvait regarder soit évidemment à la télé, soit écouter à la radio sur RMC. C'était une démonstration hallucinante. Bah, justement, on a beaucoup de questions à poser à notre envoyé spécial, notre commentateur, notre spécialiste vélo Arnaud Souk en direct de Roubaix. Bonsoir Arnaud.
Salut les amis.
Bon déjà, il était le grand favori, je le disais, on en parlait avec Marion, ça a été un festival.
Ah oui, ça a été un festival, c'est ce qu'on appelle avoir la pancarte et embarquer la pancarte avec soi bien dans le dos et la ramener à l'arrivée tranquillement comme il a fait la semaine dernière sur pour le Tour des Flandres. Ouais non, c'est monstrueux ce qu'a fait aujourd'hui Mathieu Van der Poel. Je mettrai juste un tout petit bémol, hein, par rapport à l'histoire de la moyenne effectivement de 47 km 802 par heure qui a été accomplie aujourd'hui par Mathieu Van der Poel. Alors oui, c'est parce que d'abord c'est un champion qui est très fort et tu l'as dit très très justement Marion, mais c'est aussi parce qu'il y avait vent de dos pendant toute la course et du coup évidemment ça a aidé à battre le record de vitesse.
Alors tu l'as rencontré, hein, Arnaud, Mathieu Van der Poel après la rencontre. Comment ça s'est passé après la rencontre, des formations professionnelles après la course, comment il a pris les trois points, il était content. Comment ça s'est passé là au Vélodrome de Roubaix après après cette course.
Bah voilà, représentant les Pays-Bas, Mathieu Van der Poel.
Voilà, ce deuxième succès d'affilée sur Paris-Roubaix, hymne néerlandais à la pluie, est une première depuis Tom Boonen. Il y a 15 ans, un triomphe acquis au terme de l'une des échappées les plus longues de l'histoire de l'enfer du Nord. La plus grosse, ça avait été celle d'André Hitchmill en 1994, 60 km. Là, c'est 59 km pour Mathieu Van der Poel. Honnêtement, quand il a attaqué, il s'attendait pas à faire de tels dégâts. On l'écoute, Mathieu.
Non, on n'est jamais sûr et c'était pas une attaque pour aller seul déjà jusqu'à l'arrivée, mais j'avais vraiment des jambes incroyables aujourd'hui, donc j'ai juste roulé si fort pour aller jusqu'à l'arrivée.
Voilà, avec ce nouveau succès, le petit-fils de Raymond Poulidor rentre un peu plus dans la légende du cyclisme. On ne va cesser de le dire, il remporte en une semaine deux des courses les plus mythiques du vélo après le Tour des Flandres la semaine dernière, donc Paris-Roubaix aujourd'hui.
Même les pavés, j'ai vraiment essayé de savourer le moment. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, donc j'aurais jamais rêvé comme enfant que j'aurais gagné toutes ces courses. Je me rends compte qu'on a fait l'histoire aujourd'hui.
Voilà, l'histoire avec notamment 3 minutes d'avance sur le deuxième de la course, son coéquipier, le Belge Jasper Philipsen. C'est le plus gros écart enregistré depuis la victoire de Johan Museeuw en 2002. Arrivé cinquième avec 3 minutes 15 de retard, le Suisse Stefan Küng, lui, ne pouvait que saluer l'artiste.
Un jour, je pourrais raconter à mes enfants que j'ai couru avec le fameux Mathieu Van der Poel. Quand il accélère, c'est vraiment autre chose. On n'a pas pu suivre. Et même après, il creuse encore quand nous, derrière, on roule. Et ouais, chapeau.
Voilà, chapeau. 6 monuments au palmarès de Mathieu Van der Poel qui devance désormais Tadej Pogacar avec une victoire de plus donc sur les monuments. C'est le meilleur coureur de classique de notre époque, ça c'est incontestable. Et puis il va chasser dans 2 semaines désormais un premier succès sur un autre monument, la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Gageons qu'avec la forme du jour, il va falloir quand même aller le chercher, même si ça correspond un tout petit peu moins bien, on a envie de dire, à son profil et qu'il aura peut-être un tout petit peu plus de concurrence, mais je suis même pas
alors
sûr.
Justement.
Mathieu Van der Poel, il survole son début de saison.
Justement, c'est ma question, Arnaud. Il y a, comme tu l'as dit, cette classique arrive, le Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que tu penses qu'il a les capacités et les qualités pour aller battre Pogacar? sur cette course?
Alors, c'est toute la question. C'est vrai que Tadej Pogacar, comme Mathieu Van Der Poel, est un énorme puncher. Voilà, et on a vu, par exemple, il y a un précédent cette saison entre les deux bonhommes. C'était le Poggio di San Remo, alors qui est moins dur que les difficultés qu'il y aura dans le final de Liège-Bastogne-Liège. Mais on avait vu Tadej Pogacar ne pas véritablement parvenir à lâcher Mathieu Van Der Poel. Après, c'est vrai que sur Liège-Bastogne-Liège, il y a quand même beaucoup plus de difficultés de beaucoup plus grande importance. Et donc, Tadej Pogacar, a priori, me semble, si jamais il a la forme affichée aussi depuis le début de la saison, plutôt favori par rapport à Mathieu Van Der Poel. Mais sait-on jamais, parce que avec ce qu'on a vu quand même avec Mathieu Van Der Poel depuis le début de la saison, vous vous rendez compte qu'il a fait 5 jours de course et qu'il s'est imposé à 3 reprises.
Il court très très peu en plus, c'est ça le problème. Ce qui est incroyable, c'est qu'il court extrêmement peu et qu'il arrive tout de suite à avoir du rythme. C'est quand même hallucinant.
Oui, alors il court peu sur la route parce que il a beaucoup couru sur les cyclocross depuis le début de la saison et ça lui avait également profité justement en termes de préparation pour la route. Donc voilà, il court peu à la fois effectivement aux yeux du grand public français, mais c'est un champion qui ne s'arrête jamais.
Mais je le trouve quand même extrêmement régulier puisqu'il a participé à 17 monuments. Tu l'as dit, il en a rapporté 6, mais il a fait quand même 10 podiums aussi. Donc il a quand même une régularité sur ce genre de course qui est énorme.
Non, mais c'est monstrueux ce qu'on est en train de vivre. Faut je pense remonter à Eddy Merckx pour voir un garçon aussi fort sur les grandes classiques. Tu parlais de cette statistique là, j'en ai une autre moi à vous redonner. Je me replonge la semaine dernière sur le Tour des Flandres. En fait, il a participé 5 fois au Tour des Flandres. Il a terminé 3 fois premier, il fait une fois deuxième et sa pire place c'est une 4e place lors de sa première participation. Et encore, il avait eu un incident mécanique. En fait, il y a quelque chose de. Alors, on va pondérer un petit peu quand même parce que. Aujourd'hui, son principal adversaire, Wout Van Aert, n'était pas là parce qu'il s'est blessé sur à travers la Flandre. Oui. Il est tombé assez violemment et il s'est fait une fracture de la clavicule. Et c'est vrai qu'il avait tout misé, lui, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Et il n'était pas là. Moi, j'aurais quand même aimé voir si Mathieu Van Der Poel était capable de lâcher Wout Van Aert aujourd'hui. Mais voilà, c'est sûr qu'il a quelque chose de plus. Et on entendait Stefan Küng, qui est également l'un des grands coureurs de classiques de notre époque, dire quand il accélère, il se passe quelque chose. On ne peut pas le suivre, en fait. Et dès la trouée d'Arambert aujourd'hui, a compris que Mathieu Van Der Poel allait être très très difficile à battre. Bon ben voilà, après il a prouvé à 59 kilomètres de l'arrivée en lâchant tout le monde que c'était trop compliqué pour la concurrence.
Reste avec nous Arnaud quelques minutes. Sacha a composé le 32-16, il veut discuter avec toi et avec Marion Bartoli évidemment. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
Bonsoir à toute l'équipe.
Sacha, toi aussi encore impressionné, estomaqué par ce que tu as vu, entendu aujourd'hui de la part de Mathieu Van Der Poel.
Ah ouais, on sait même plus quel superlatif employer. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Je peux pas dire mieux. Il a écrasé la course. C'était magnifique. Même si du coup, on voyait bien qu'il était dans la gestion. Trop fort, quoi. Vraiment trop fort, quoi. Donc du coup, on s'est plus passionné pour les deuxième, troisième et quatrième places au final.
Oui, c'est vrai qu'à un moment donné de la course, Arnaud, c'était plié. Oui. Alors, on était admiratif devant le numéro. Je parlais de chef-d'œuvre. Franchement, c'était un chef-d'œuvre aujourd'hui, surtout sur une course si difficile comme l'est Paris-Roubaix. Mais c'est vrai que, au final, on s'ennuyait un peu parce que ce qui nous fait vivre, c'est le suspense. Oui. Alors, c'est pas de sa faute, mais on a vu un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que la dernière heure, voilà, on s'occupait plus de la
gagne. Comme sur le Tour des Flandres la semaine dernière, finalement. Je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Christophe. Et c'est vrai que, on a tendance à se dire en observateur et quand on espère avoir un petit peu de suspense, surtout comme sur une radio comme RMC, où on aime bien faire vivre l'instant. Bon, on l'a quand même fait vivre, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir, comme l'an passé, un suspense un peu plus long qui avait duré à l'époque jusqu'au carrefour de l'arbre. Bon, voilà, le suspense a été tué, mais encore une fois, saluons l'artiste parce que c'est exceptionnel de vivre quelque chose.
Jasper Philipsen est quand même à 3 minutes. Il arrive deuxième à 3 minutes.
Ah non, mais c'est
Van Der Poel, c'est hallucinant.
Je vous le disais, c'est du jamais vu depuis Museu en 2002. Donc c'est l'un des. Je sais plus exactement. On est loin des 28 minutes de l'édition remportée par Maurice Garin. Alors on était encore au 19e siècle, mais des 28 minutes d'avance de Maurice Garin sur son dauphin. Mais on est quand même sur l'un des 10 plus gros écarts, 10 ou 15 plus gros écarts de l'histoire de Paris-Roubaix entre le premier et le deuxième. Donc c'est quelque chose qu'il a fait aujourd'hui Mathieu Van Der Poel, ça c'est clair.
Sacha, tu voulais rajouter?
Oui. Oui, voilà, si je peux me permettre d'ajouter, on s'est quand même régalé. Hein. Voilà, franchement, il nous a fait une démonstration. Hein. Donc voilà, c'était quand même, voilà, c'était magnifique. Hein. Même si voilà, il y a peut-être pas trop de suspense, enfin, surtout sur la dernière heure, mais voilà, on s'est quand même régalé à le voir bien positionné sur sa machine. Franchement. Quel champion.
Pour moi, on est toujours en admiration devant un champion qui domine sa discipline, quelle que soit la discipline. Et justement, que ça soit en tennis, en foot, en cyclisme ou en natation, à partir du moment où quelqu'un arrive à autant dominer son art, de toute façon, on ne peut que l'admirer. Alors après, effectivement, il y a un petit peu moins de suspense, mais d'arriver comme ça à tenir la cadence en partant complètement seul, c'est là où je me suis permis, Arnaud, effectivement, tu avais raison de souligner qu'il avait un vent favorable, mais de continuer à garder une moyenne de vitesse pareille alors que tu as largement lâché tes concurrents, il faut quand même une force de caractère et une capacité à maîtriser ce que tu fais qui est exceptionnelle.
Oui, et d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel a continué à prendre des risques hein, pour toujours plus creuser l'écart. Voilà, c'est vrai que dans le feu du direct, notre consultant Cyril Guimard s'étonnait un petit peu de le voir prendre autant de risques. C'est vrai que parfois, sur l'entrée de certains secteurs pavés, il a viré un peu large. On l'a même vu sur l'avant-dernier secteur pavé. Choisir de prendre le côté de la route qui était lisse plutôt que les pavés.
Absolument.
Et finalement, bah, comme l'an passé d'ailleurs, il n'est pas passé loin de se prendre un plot dans la roue avant. Mais après, il y a quelque chose dont il faut prendre conscience avec Mathieu Van Der Poel, et c'était pas innocent non plus tout à l'heure quand je vous ai parlé de cyclocross, c'est que c'est un garçon qui est un tel génie sur les épreuves de cyclocross, qui sont des épreuves dans la boue, dans la terre, dans le sable, que finalement sur les pavés, il peut presque rien y arriver parce que il a une maîtrise totale. Et il n'y a pas juste une question de force aujourd'hui, il y a une question de technique pure, et il faut rouler sur le pavé pour se rendre compte de ça. Il y a une question de technique pure qui fait que Mathieu Van Der Poel, quand on dit il survole le pavé, il y a un vrai truc par rapport à ça, parce que c'est un coup de pédale aussi qui doit être hyper dosé, qui doit être très fluide. C'est quelque chose voilà, de très spécial par rapport à ce qui se fait sur les autres courses. Et ça, Mathieu Van Der Poel, il sait mieux faire que personne. Et ça explique aussi en partie aujourd'hui l'écart de 3 minutes sur Jasper Philipsen.
Arnaud, juste un point statistique là. Il lui faudrait combien de monuments pour écraser tout le monde dans l'histoire du vélo ?
Oula, alors là tu me prends un petit peu de cours, mais je crois qu'il est très très loin. Je crois que Merckx est à 19 monuments, si je dis pas de bêtises. Donc il en est quand même encore très très loin, Mathieu Van Der Poel.
Oui, c'est une légende ounette quoi pour l'instant.
Non, je blague. Bon, oui, c'est une légende ounette, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 6 monuments, c'est le meilleur coureur sur les monuments de notre époque. Hein. Tadej Pogacar n'en a que 5, mais il a encore du beau monde devant lui. Hein. Il a encore du beau monde devant lui, et si je dis pas de bêtises, mais tu peux peut-être vérifier ça, Jean-Christophe. J'ai malheureusement pas de connexion internet sous le nez. Je devrais le savoir. Je crois que c'est 19. Je suis quasiment sûr que c'est 19, mais j'en suis pas certain.
Pardonne-moi, mais je te crois sur parole. En tout cas, les auditeurs te croient sur parole, et là est l'essentiel. Merci beaucoup, Arnaud Souk, d'avoir été avec nous en direct de Roubaix. Merci pour les émotions cet après-midi. On a réécouté le commentaire et on se régale à chaque fois avec toi et le cyclisme. Et puis là, c'est ces grands champions comme Mathieu Van Der Poel. Merci également à Sacha d'avoir composé le 32-16. Merci Sacha. Merci de ta fidélité et à bientôt sur RMC. Marion, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time. On va aller à Monte Carlo. Eric Salio nous appelle. Il veut nous donner des dernières informations de Novak Djokovic.
Il veut dire qu'il est à la plage aujourd'hui. Bon, d'accord.
Non,
allez, on y va.
Il a vu Novak.
Et Carlos Alcaraz, il me semble.
Mais oui, il va nous donner pas mal d'informations sur les deux joueurs, mais également sur Rafael Nadal. Je sais que tu veux parler du forfait de l'Espagnol. A tout de suite sur RMC pour la suite de Bartoli Time. Et restez bien avec nous à 19h40. Jean-Michel Roussier, qui a poussé un coup de gueule hier contre le Paris Saint-Germain et la composition d'équipe de Luis Enrique. Et lui, le président du Havre, sera notre invité. Il sera avec toi, Marion. A tout de suite sur RMC.
RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
Marion Bartoli. Le retour dans Bartoli Time. Alors, pour faire un petit point sur le vélo, parce que j'aime bien quand même très précise, c'est Eddy Merckx qui a remporté 19 monuments. Il a remporté tous les 5 monuments. Donc 19 au total. Et le deuxième dans ce palmarès, c'est aussi un Belge, Roger De Vlaeminck, qui en a remporté 11 et lui aussi a remporté les 5 monuments. Voilà pour être très très précis sur le vélo.
Tu as raison.
Et tout de suite,
c'est le tennis. Il reste un petit peu de travail donc pour l'incroyable Mathieu Van Der Poel et sa démonstration aujourd'hui sur Paris-Roubaix. Un rendez-vous à vous donner. Nous serons à Toulouse dans quelques instants pour parler de la qualification du Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup avec notre commentateur Wilfried Templier. Et puis à partir de 19h40, nous serons avec Jean-Michel Roussier, très agacé annoncée après la composition d'équipe de Luis Enrique, la composition d'équipe alignée contre Clermont pour lui, eh bien ça fausse le championnat. Il sera notre invité et on vous donnera toutes les dernières informations concernant Paris Saint-Germain-Barcelone. C'est dans 3 jours, ce sera l'événement cette semaine sur RMC. Allez, tout de suite, Monte Carlo.
Rafael Nadal a posté une vidéo de 21 secondes où il frappe gaiement dans la balle dans son académie à Majorque. Mais la vérité, comme il le dit lui-même dans son message, c'est que son corps ne l'autorise pas à revenir sur le circuit.
J'espère que ce n'est pas une blessure importante et j'espère avoir la chance de m'entraîner cette semaine et de jouer Melbourne. Mais honnêtement, je ne suis sûr de rien à 100% pour l'instant.
À un moment, il ne pourra plus refuser l'obstacle, sinon ce sera la retraite. Mais on imagine mal Rafael Nadal ne pas fouler le central Philippe Chatrier une dernière fois.
RMC Bartoli à la folie.
Eh oui, on l'imagine mal, mais c'est une possibilité. Eric Salio est avec nous en direct de Monte Carlo. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Salut Eric.
Salut Marion.
Alors,
la plage, c'était bien la plage ou pas?
Quelle plage? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais que ça joue là, je suis dans ma cabine.
Mais je sais que ça joue, mais je sais que je suis le score, tu sais.
Comment ça fait froid quand même là?
Oui, mais une petite laine, tout va bien se passer.
Je vais changer mon maillot de bain quand même, parce qu'il a.
Bon, le tournoi a débuté aujourd'hui sans Rafael Nadal, qui a dû jeter l'éponge jeudi. L'Espagnol a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux. Et je vous lis son message, assez édifiant tout de même. Hein, et Marion, je voudrais avoir ton avis. Je traverse une période difficile sur le plan sportif. Mon corps ne me permet tout simplement pas de jouer, bien que je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l'illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très importants pour moi. La réalité est que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Marion, quand on sait que dans un mois et demi c'est Roland Garros, il y a de quoi avoir peur quand même.
Alors, j'ai discuté avec l'entourage de Rafael Nadal. Effectivement, pour eux, l'essentiel, c'est Roland-Garros. Donc, ils veulent vraiment essayer que Rafa soit prêt pour Roland-Garros. Pas le tournoi olympique, mais le tournoi du grand chelem à Roland-Garros. Donc, des matchs en 5-7, des matchs qui vont être éprouvants physiquement. Et ils ont conscience que s'il y a des petites blessures et des petits bobos auparavant qui sont présents, ce n'est pas en jouant des tournois que ça va s'améliorer. Donc, ils essaient vraiment de préparer Rafa pour arriver à être capable de tenir sur la longueur des matchs en 5-7 difficiles sur la terre battue avec des jeunes joueurs qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus percutants et bien sûr des Alcaraz, des Sinner, Novak Djokovic qui va tenter de défendre son titre, donc avec une concurrence extrêmement élevée. Et Rafa a totalement conscience qu'il devra arriver à son maximum et à 100%. Donc, il ne veut pas prendre de risques auparavant. Je rappelle quand même les statistiques qu'il a sur terre battue parce que c'est quand même des chiffres qui sont juste hallucinants. Donc, il a remporté 4 tournois, plus de 10 fois sur terre battue. Monte Carlo, qui se déroule en ce moment, 11 fois. Barcelone, juste la semaine d'après, 12 fois. Rome, 10 fois. Et Roland-Garros, 14 fois. Donc, aujourd'hui, si effectivement qu'il soit un petit peu fatigué et qu'il ait quelques blessures, je pense que vu ce qu'il s'est imposé et infligé à son corps depuis tant d'années, c'est totalement logique. Mais encore une fois, pour en avoir discuté avec son entourage, je tiens à rassurer les fans de Rafael Nadal. Il compte bien s'aligner à Roland-Garros et c'est son objectif premier et principal de cette saison sur terre battue.
Ok, bah c'est une très bonne information que tu donnes ce soir aux auditeurs. C'est une stratégie, si je comprends bien. Voilà, il faut pas qu'il se crame.
Il faut ménager sa monture, exactement. Okay. Il faut essayer de prendre des décisions intelligentes pour arriver le mieux possible et encore une fois prêt à tenir des matchs sur la distance, sur la longueur. Les matchs en 5-7, c'est des matchs qui peuvent être très longs à Roland-Garros. On l'avait vu avec ce fameux match sur Zverev où malheureusement Alexander Zverev s'était bien évidemment arraché la cheville sur Philippe Chatrier. On en était à 2-7, à plus de 3h, c'est ça, 3h30 il me semble Eric, dans des proportions absolument hallucinantes en termes de temps. Donc il faut que Rafael Nadal soit prêt physiquement à jouer ces matchs aussi longs.
Alors Eric, entre deux transats, tu as tout de même rencontré deux hommes qui souhaitent ardemment le retour de l'Espagnol.
Non mais je voudrais juste apporter une précision, parce que Rafael Nadal était samedi soir à la finale de la Coupe du Roi à Séville, il a été interrogé par la télé diffuseur et en fait oui, Marion a raison, il a des petits soucis et là c'est les abdos toujours, hein. Il n'arrive pas à se débarrasser de ça, donc effectivement ils vont essayer de gagner du temps. Il n'y a pas d'urgence encore, c'est vrai, mais moi je me demande quand même, enfin Marion, est-ce qu'il peut se présenter entre guillemets à poil à Roland, c'est-à-dire sans avoir joué le moins de tournois? Ça c'est
ça. S'il y a une surface sur laquelle il peut se permettre et un cours sur lequel il peut se permettre, c'est bien le Confi Chatria ou Roland-Garros. Sur n'importe quel autre endroit, je t'aurais dit, ça aurait été très très compliqué, mais là ce cours c'est quand même chez lui.
C'est quand même sa maison. Pardon, c'était le sujet de conversation quand je suis arrivé aujourd'hui à Monte Carlo. Et Novak Djokovic a évidemment été interrogé là-dessus. Écoutez sa réponse, je pense que ça résume très bien le sentiment général.
C'est tous les jours importants pour notre sport, pour avoir Rafa sur les courts. Particulièrement cette année, qu'il allait dire avant que peut-être c'est la dernière chance, dernière Roland-Garros, dernière saison de son carrière. J'espère, comment un fan de tennis, qu'il peut revenir et à moins jouer sur son terre battue préférée à Roland-Garros.
Et voilà pour la réaction de Novak Djokovic en français. Marion, c'est vrai que toi qui connais bien Novak Djokovic, c'est pas juste pour faire plaisir. Il le pense vraiment. Le tennis absolument. A besoin de Rafa Nadal et a besoin de ce dernier Roland-Garros.
Totalement. Et puis il y a énormément de respect entre ces deux joueurs-là, même comme il y avait autant de respect aussi avec Roger Federer. Ces trois joueurs se sont nourris de cette concurrence. C'était une concurrence saine. Ils se sont tirés vers le haut les uns et les autres pour repousser de plus en plus loin leurs limites en termes de ce qu'ils étaient capables de délivrer comme performance sur le terrain. Alors pour Novak Djokovic, il vient de battre un nouveau record puisque c'est désormais le plus vieux joueur numéro 1 mondial de l'histoire de l'ATP. Il détrône d'ailleurs Roger Federer puisqu'il a désormais 36 ans et 321 jours. Il est un nouveau numéro 1 mondial. Enfin, il reste numéro 1 mondial 13 ans après sa première accession à la première place du classement ATP. Donc ça vous montre aussi la longévité qu'a été capable d'avoir Novak Djokovic. Mais ces trois-là ont tellement une histoire commune que bien évidemment, aussi pour leur propre motivation, ils ont besoin d'avoir leur concurrent historique qui soit présent dans les tournois. C'est ça qui représente le sel de la compétition pour eux, qui représente les matchs avec le plus d'enjeux. Donc bien sûr que Novak a envie totalement de voir Rafa sur les terrains, à Roland-Garros bien sûr, et puis il espère aussi sur d'autres tournois.
Oui, sur d'autres tournois. Il y en a un qui est directement concerné par le retour de Rafael Nadal, c'est Carlos Alcaraz, que tu as rencontré aussi, Eric.
Oui, tu as raison de le dire, parce que ça fait quelques mois qu'ils en parlent.
Et oui, les Jeux Olympiques en
jouer,
double.
Voilà, ils aimeraient bien jouer le double à Paris, donc aux Jeux Olympiques. Et donc, Carlos Alcaraz s'est exprimé là-dessus. Mais bon, il a pas trop d'infos. C'est aussi ce qui ressort de l'interview.
Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas croisé sur le circuit. En tant qu'amoureux du tennis, c'est évidemment dommage qu'il ne soit pas présent à Monte-Carlo. J'espère vraiment jouer le double aux Jeux Olympiques à ses côtés. Ce serait un rêve. D'ici 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses.
Marion, est-ce qu'il y a une éventualité à un moment donné où au début du mois de mai, Rafael Nadal se dit que Roland-Garros, c'est encore trop juste et qu'il privilégie à fond les JO ou non, tu n'y crois pas à cette option?
Franchement, j'aurais du mal à y croire et j'aurais du mal à croire que Rafa pourrait ne pas être prêt pour Roland-Garros et être prêt pour les JO. Ça me semble très compliqué. Je pense qu'il veut vraiment, encore une fois, lorsque vous avez remporté un tournoi à 14 reprises, et comme l'a dit Novak Djokovic, et je suis complètement alignée avec ses déclarations, je pense qu'il sait que c'est quasiment son dernier Roland-Garros. Il veut y participer, Rafa, il va absolument tout faire pour y participer. Et je pense que ça sera un crève-cœur pour tout le monde, pour la Fédération Française de Tennis, pour Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, pour tous les fans de Rafael Nadal, pour tous les fans de tennis, tout simplement, de ne pas voir Rafa fouler les cours cette année à Roland-Garros. Et j'aurais du mal, du coup, à me projeter sur les Jeux Olympiques. Mais pour moi, on a tellement vibré avec Rafa et ses exploits et ses matchs à Roland-Garros qu'on a envie de le revoir au moins une dernière fois, comme un dernier adieu pour lui rendre hommage aussi pour tout ce qu'il a fait. Donc j'ai pas envie d'envisager le fait qu'il ne soit pas présent, même si effectivement ça reste toujours une partie de l'équation qu'il faut prendre en compte. Mais pour tous les fans de tennis que nous sommes, on a envie de le voir jouer sur les terrains de Roland-Garros, c'est certain, que ça soit pour le tournoi du Grand Chelem ou pour les Jeux Olympiques.
Bon, rapidement, Eric, toi qui es en direct de Monte-Carlo, on entend justement la foule derrière toi. Eric, parlons des présents. Novak Djokovic qui fait son retour quelque part. C'est son premier tournoi depuis sa séparation avec Goran Ivazinevic, son entraîneur. Comment tu l'as senti, Novak Djokovic, lui qui est resté sur quelques performances en demi-teinte?
Ça fait longtemps qu'il n'a pas brillé sur le rocher. Bon, il aura un premier tour contre le vainqueur de Safiulin Mounar. Il a dit qu'il espérait pas grand-chose. Bon, lui aussi, il pense qu'à Roland et au jeu, et Wimbledon au milieu. Non, la vraie star ici, c'est Sinner. Évidemment, il y a la proximité de la frontière, mais c'est hallucinant. Il peut plus se déplacer sans 25 gardes du corps. Yannick Sinner, c'est assez incroyable. Donc, ça va être un tournoi passionnant parce qu'on peut avoir une demi-finale à Alcaraz Djokovic, pourquoi pas. Et puis, Sinner Medvedev et vous, ou Gaël Monfils, puisque Gaël Monfils peut très bien affronter Dany Medvedev dès le deuxième tour. Et demain, on aura 4 Français sur les cours, notamment le derby Fils-Manarino.
Eh bien, on a hâte de voir ça et évidemment,
alors,
tu vas nous conter tout ça
stat
sur RMC.
Oui, une dernière Marion. Micro-stat. Donc, Novak Djokovic a déjà remporté 40 Master 1000, mais s'il gagne ce Monte-Carlo, il aura gagné tous les Master 1000 au moins 3 fois.
Incroyable, quand
même. Ça n'arrivera pas.
Ça. Comme ça, au moins, s'il veut mettre la concurrence loin, là, au moins, on sera assuré.
Rapidement également, avant d'aller à Toulouse, car Wilfried Templier nous attend pour nous raconter la victoire du Stade toulousain en Champions Cup. Sur Novak Djokovic, je sais que tu es aussi en lien assez étroit avec l'entourage. Tu les as eus ces derniers jours. Sa séparation avec son entraîneur, là, c'est quelque chose qui se passe sans souci.
Ça se passe sans souci, effectivement. Nenad Zimonjić, qui a intégré sa structure, est quelqu'un qui connaît très bien Novak depuis très longtemps, puisqu'il était avec lui en Coupe Davis. Moi, lorsque j'ai joué les légendes du tournoi de Wimbledon avec Nenad en tant que partenaire de double mix, il était aussi dans la boxe de Novak pendant toute la quinzaine. L'année où Novak a remporté le tournoi en battant Nick Kyrgios en finale, il y avait pas mal de stress, pas mal de difficultés à gérer, et Novak avait fait appel à Nenad Zimonjić en plus de Goran Ivanišević pour arriver justement à faire retomber un petit peu la pression, à gérer ses momentations qui étaient, ses moments de tension pardon, qui étaient importants pour lui. Donc il connaît très bien ce joueur-entraîneur qui a été à ses côtés déjà de nombreuses reprises. C'est quelqu'un, Nenad Zimonjić, qui a une grande connaissance du tennis, qui est extrêmement calme, qui apporte beaucoup de sérénité. Et comme l'a dit Goran Ivanišević, qui a donné un long article aussi dans un journal serbe, il y avait une espèce de lassitude qui s'était installé pour les deux. Il y avait une lassitude pour Novak d'être effectivement tous les jours, au quotidien sur le terrain avec Goran, et Goran aussi avait fini par se lasser de cette situation, ce qui est compréhensible encore une fois quand on est au plus haut niveau depuis 2018, qu'on a atteint autant d'objectifs, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions à gérer, et parfois il y a une limite pour chacun, mais en tout cas ils sont séparés en de très très bons termes. Ils restent bien évidemment amis, et je pense que cette relation avec Nenad Zimonjić va durer, parce qu'encore une fois il a été capable d'apporter déjà beaucoup de choses à Novak dans les coulisses.
Merci Eric d'avoir été avec nous en direct. Merci de Monte Carlo. On te retrouve tout au long de la semaine, et toutes les informations se retrouveront sur rmcsport.fr.
Merci Eric, passe une bonne semaine.
Salut Mario, à bientôt.
Allez, tout de suite, le Stade Toulousain.
Premier essai pour le Stade Toulousain, 3 pénalités de suite contre le Racing. Les Toulousains ont vent contre, donc ils n'ont pas tenté la pénalité. Ils ont été deux fois en touche. Et sur la dernière prise de balle d'Alexandre Roumat, c'est tout le pack qui s'est affalé dans l'embut. Et le deuxième essai Toulousain, signé Baptiste Bell. Et le quatrième essai Toulousain, l'efficacité, le pragmatisme. Quand les Toulousains viennent dans les 22 mètres du Racing, ça fait mal. Dernier essai, le cinquième, signé Alexandre Roumat sur une tentative vaine de relance du Racing dans ses 22 mètres. Ce Racing-là, sans Chat, sans Tarit, sans Gibert, sans le Garek, n'était pas de taille pour lutter avec le Stade Toulousain, qui se qualifie donc pour les quarts de finale. On les tient, ces quarts de finale.
RMC, Bartoli Time.
Eh oui, ils seront donc trois en quart de finale. Trois clubs français qui poursuivent leur chemin en Champions Cup. Hier, l'UBB et La Rochelle ont décroché leur billet. Cet après-midi, vous l'avez entendu, le Stade Toulousain n'a laissé aucune chance au Racing 92. Victoire 31-7. Les Toulousains qui recevront Exeter le week-end prochain pour une place en demi. Notre commentateur, notre spécialiste rugby est avec nous. Bonsoir Wilfried.
Salut tout le monde.
Wilfried Templier en direct de
Salut
Toulouse. Wilfried, on s'attendait à une victoire. C'était un moment aussi important pour le Stade Toulousain avec Romain Ntamack, Antoine Dupont.
Le retour de la charnière.
Qui rejoue ensemble.
Oui, c'était la première titularisation depuis le mois d'août, ce 12 août, maudit 12 août où Romain Ntamack s'est blessé. Ils n'avaient pas joué ensemble depuis ce moment-là, et en club depuis la finale du top 14. Donc c'était. Bah, tu veux qu'on écoute Antoine Dupont, si vous voulez, on écoute Antoine Dupont tout de suite sur ces retrouvailles, cette titularisation avec Romain Ntamack.
Plutôt bien, comme je disais, pas l'impression qu'on ne se soit pas vu depuis des mois. Ce qui est plutôt bon signe, mais après encore une fois, quand on a un paquet d'avant qui est dominant comme ça, c'est toujours plus facile pour la charnière. Mais je pense que Romain a bien préparé son retour, il a pu s'entraîner pas mal avec l'équipe, même si moi j'étais pas encore là, mais pour reprendre tous ses repères et retrouver son jeu qu'on lui connaît, il fait une prestation très complète, très solide aujourd'hui comme on lui connaît, et on espère que ça va continuer.
Et ça s'est bien passé pour le Stade Toulousain, le score en atteste, hein, 31-7. Bon, le Stade Toulousain s'est quand même qualifié premier de toutes les poules, 20-20, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires bonifiées, 20 points possibles sur les 20 disponibles, alors que le Racing n'avait eu qu'une victoire. Et les Toulousains étaient un peu, comment dire, cette semaine un peu chafouinés, si je peux me permettre ainsi,
messieurs, dames.
Ouais, de retrouver une équipe aussi forte, entre guillemets, que le Racing, alors qu'ils avaient donné beaucoup, ils avaient été chercher beaucoup dans ces poules de Coupe d'Europe, mais pour retrouver le 16e, le Racing n'avait gagné qu'un match et s'est qualifié en dernière position. Donc il craignait un petit peu de retrouver une équipe française comme le Racing, mais je pense que le Racing a peut-être perdu le match une semaine avant quand il a perdu sa charnière blessée, le Garek et Gibert face à Clermont, parce que ça a été très dur pour Clovis Lebaye et Tristan Teder. Et puis les Toulousains ont fait preuve de comme je disais dans le commentaire, pragmatique. Tous les temps forts, ils les ont concrétisés. Ils ont eu le vent un vent fort justement face à eux en première mi-temps, et à la pause ils menaient 10-0. On se disait que c'était trop dur pour ce Racing là qui a encaissé quand même 5 essais, Marion. Ouais, donc c'est logique, c'est implacable, j'ai envie de dire, pour le Stade Toulousain face à ce Racing là.
Moi j'aimerais revenir avec toi, Wilfried, sur deux éléments. La première, c'est qu'effectivement, les déclarations de Romain Tamac, plein de sagesse, où il a déclaré à la fin de son match qu'il y avait des périodes où il sentait quand même plus essoufflé, où il avait un petit peu du mal à repartir au combat, ce qui est normal après 8 mois de blessure. Même si on fait des entraînements à haute intensité, le stress généré dans le match va toujours avoir un impact sur le rythme cardiaque et donc les efforts répétés. Donc j'aimerais avoir ton avis sur son niveau de jeu global. Et puis aussi, les deux formations s'étaient affrontées en top 14 de 28 janvier. Ça avait été un score nettement plus serré, 27 à 20. Oui. Là, en quart de finale, ils vont accueillir Exeter. Ouais. Comment tu le sens sur ce match? Parce qu'Antoine Dupont a déclaré que ça allait être un match très très compliqué contre Exeter. Toi, tu le vois comment?
Alors, concernant Romain Tamac, il a fait un bon match, on va dire. Et il s'est notamment rassuré sur une chose qui est des plus basiques au rugby, c'est la défense. Il a bien défendu, donc pour les sensations, pour le genou. Et Hugo Mola nous disait par contre qu'il était très content de son match et qu'il a vu dès la 50e minute que Ntamak regardait vers le banc. Donc c'est qu'il manquait un petit peu de gasoline. Il a joué une vingtaine de minutes contre Pau la semaine dernière. Là, c'est un match de Champions Cup quand même, de phase finale. C'est beaucoup plus dur. Donc, petit à petit, ça va aller mieux, même s'il faudra quand même faire attention parce que c'est des blessures qui sont pas anodines. Concernant le Stade Toulousain, qui avait gagné de peu, mais qui avait gagné au Racing, sauf que là, ils sont en mode Coupe d'Europe et en Champions Cup. Oui. Quand ils se mettent en mode comme ça, ils le sont depuis le début de cette compétition. Didier Lacroix, le président, a dit l'été dernier, c'est un objectif. Ils l'ont pas gagné, tu te rends compte, depuis 2021, ils l'ont pas gagné. Non, mais ça peut paraître beaucoup ici à Toulouse, ça paraît pas beaucoup dans les autres clubs. Donc, c'est une priorité. Donc, ils sont vraiment, et Hugo Mola l'a dit aussi après le match, ils ont très bien bossé cette semaine, ils se sont mis en mode phase finale et ça va continuer parce que vous savez qu'on enchaîne, Jean-Christophe tu l'as dit, les quarts de finale le week-end prochain et donc ce sera Exeter. C'était une équipe qui a été championne d'Europe contre le Racing justement il y a quelques années en 2020, au moment du Covid, qui avait battu Toulouse en demi-finale, mais qui a perdu beaucoup de joueurs. Et qui est une équipe qui a été en reconstruction, qui a formé beaucoup de joueurs. Donc c'est un ton en dessous de ce qu'ils étaient. Je pense que c'est faisable, normalement, pour ce Stade Toulousain-là, qu'il y aura des affrontements entre Leinster et La Rochelle, le remake des deux dernières finales samedi. Mais c'est de l'autre côté du tableau. C'est vrai que Toulouse pourrait retrouver, si l'UBB bat les Harlequins, les Anglais aussi samedi, pourrait retrouver l'UBB en demi-finale. Et a quand même les faveurs du pronostic dans cette Coupe d'Europe de par l'expérience, la culture du club dans cette compétition, même si de l'autre côté, que ce soit La Rochelle ou Leinster, si ça arrive en finale, ça ferait aussi ça aurait de la gueule, si vous permettez.
Exactement.
D'avoir ça en finale.
Et on a hâte forcément d'être le week-end prochain avec ces quarts de finale de la Champions Cup.
Juste les horaires, l'UBB Harlequins samedi 16h, Leinster La Rochelle samedi 18h30 et Toulouse Exeter dimanche 16h.
Tous ces matchs à suivre évidemment sur RMC avec pas les trois matchs, Wilfried Templier toujours en commentaire. Merci beaucoup Wilfried et à très vite sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time. Paris Saint-Germain, Barcelone, J-3. Allez, on ouvre le grand chapitre car c'est l'événement cette semaine. Jean-Michel Roussier, qui a critiqué la composition d'équipe de Luis Enrique, sera notre invité. A tout de suite sur RMC.
RMC. Jusqu'à 20h,
Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
Marion Bartoli.
19h45 de retour dans Bartoli Time sur RMC. C'est le moment où nous allons accueillir un président, disons, en colère.
Évidemment, on peut le dire. C'est le président du Havre, Jean-Michel Roussier, que l'on va accueillir dans une poignée de secondes. Juste vous donner le rendez-vous, le reste de votre soirée sur RMC à partir de 20h, l'After Live autour de Thibaut Giangrande et de cette rencontre de Ligue 1, la dernière rencontre de la 28e journée. Nantes-Lyon, un match à huis clos, un match particulier, mais un match très important pour les Nantais. C'est à partir de 20h. Tout de suite, Bartoli Bastan.
La remise de Virginius dans l'axe, c'est bien fait. Il sort tard le but. Le but de Clermont sur cette succession d'erreurs. Et est-ce que c'est
Keïta?
C'est Keïta qui vient reprendre cette remise de Virginius et lomber Arnautenas sur cette série d'incompréhensions. Que ce soit Skriniar, que ce soit Ougarté, que ce soit Tenas, Paris s'est raté. Et Clermont mène 1-0 au parc.
Attention, Mbappé à l'entrée de la surface, il a pu contrôler l'armée. Ramos, c'est bien joué, le fait à passer le but de Gonzalo Ramos.
6 mètres avec son pied droit sur cette combinaison. Il a fallu un peu de génie, il a fallu un peu de technique pour réussir à débloquer ce match. Et Gonzalo Ramos sur un service de Mbappé. Et là, tous les joueurs, sauf le public, un partout.
RMC Bartoli Bastone.
Eh oui, un partout entre le Paris Saint-Germain et Clermont, celle-là, on l'avait pas forcément vu venir. J-3 avant PSG-Barcelone, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour le match d'avant, donc, contre Clermont, le dernier de la Ligue 1, Luis Enrique a aligné hier soir une composition d'équipe qui n'est pas passée inaperçue. Non pas une équipe bis, non, mais une équipe terre. Et il y en a un qui n'a pas du tout apprécié la compo alignée par l'Espagnol. C'est Jean-Michel Roussier, le président du Havre, allant même jusqu'à parler de manque de respect. C'est se foutre de la gueule du monde, le Havre. 14e du championnat, à 2 points de la place de barragiste et à 7 points de Clermont, dernier. Donc, Jean-Michel Roussier est l'invité de Marion Bartoli. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir, bonsoir Marion.
Bonsoir Jean-Michel, bonsoir président. Alors déjà, quand dans sa vie, sur son CV, on a été président de l'OM, moi, je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous. Déjà, pour commencer,
oh, vous avez Jean-Michel, raison.
C'est forcément une ligne qui me fait très plaisir sur votre CV. Alors Jean-Michel, bien évidemment, merci. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, je tiens à souligner que pour moi, je comprends votre colère. Je pense qu'elle est d'ailleurs assez légitime, même si je pense qu'on va débattre avec Jean-Christophe. Mais la colère d'hier soir était extrêmement présente. On a pu vous entendre dans les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu redescendue ou vous êtes toujours au même niveau?
Non, enfin, elle n'a pas de raison de redescendre parce que la colère, en fait, la compo de Paris hier, elle est ce qu'elle était. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère. Pour vous donner tout le détail, elle a commencé la semaine quand la Ligue m'a informé que pour le cas où le Paris Saint-Germain, ce que je leur souhaite vraiment, hein, et sincèrement, passe l'étape Barcelone, et donc oui, jouerait en demi-finale, que le match qu'on doit jouer au Parc des Princes serait à ce moment-là peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà pour comment ça a commencé, ma colère. J'ai dit à la Ligue, vous rêvez, dans vos rêves. Vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, nous, je vais accepter de faire un déplacement à Nice.
Au parc.
Puis au parc, avant de recevoir l'OM. Vous êtes fous, quoi. En plus, on est entre l'avant-dernière et la dernière journée. Il y a un règlement qui stipule que ces matchs, ces deux journées sont sanctuarisées. Donc la réponse, elle est non, tout de suite. Voilà, je vous dis non, il n'en est pas question. Et ça a commencé
donc
avec
en fait, il vous demandait votre avis, c'est ça? Ils vous ont pas imposé quelque chose?
Non, il ne lui demande pas mon avis. Il m'informait que si Paris devait se qualifier en demi-finale, et encore une fois, je leur souhaite vraiment, hein, à ce moment-là, le conseil d'administration pourrait être amené à prendre cette décision. Donc, voilà, je passe sur ce premier épisode.
Vous allez pouvoir continuer, président, mais je reste sur ce premier épisode. Est-ce que, comment ça va se passer, donc, parce que vous êtes obligé de vous rendre
au Parc des Princes? Il vous laisse le choix ou vous oblige?
Ah ben si le conseil d'administration décide, il me laisse juste le choix d'aller devant un tribunal tout de suite. Enfin voilà, il y aura tous les recours. Et croyez-moi que j'épuiserai tous les recours. Et s'il le faut qu'il y ait une équipe de moins de 17, comme Marseille l'avait fait à l'époque, il y aura une équipe de moins de 17. Je veux dire, à un moment, ma colère, elle vient du fait que j'ai beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain. Vraiment un grand respect pour Luis Enrique. Et croyez-moi, c'est sincère. Mais je peux pas accepter que le Paris Saint-Germain décide seul de l'issue du championnat pour les derniers, pour les mal classés. Le championnat de Paris va être champion, c'est un très beau champion. Voilà, qu'ils jouent leur rôle de champion jusqu'au bout, que leur composition d'équipe, et ça vaut pour nous, parce qu'encore une fois, on doit jouer au parc, hein. Mais moi, je veux jouer au parc le samedi 27 avril, pas entre la 33e et la 34e journée.
Beaucoup de questions à vous poser, président du Havre, Jean-Michel Roussier, avec nous dans Bartoli Time. Déjà, vous nous dites que si la Ligue décale votre match en raison de la demi-finale de la Ligue des Champions, vous enverrez les jeunes, les minots.
Non, je réponds. Est-ce que vous me posez la question, est-ce que je veux accepter? La réponse est non, j'accepterai pas. Donc, j'utiliserai toutes les voies de recours qui sont possibles. On devrait le savoir rapidement, une dizaine de jours avant la date prévue pour le match. Et oui, il y aura toutes les voies de recours possibles. J'accepterai jamais de décaler, que ce match au parc soit décalé entre la 33e et la 34e journée.
Ok, voilà. Ça c'est clair.
J'ai une question. Moi j'ai une question, président. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a demandé ce report à la Ligue ou c'est la Ligue de son propre chef qui demande cela, qui vous demande cela?
Cher Marion, qui est le taulier réel de la Ligue? Voilà. Je ne pense pas que la Ligue d'elle-même dise tiens, on va au nom du grand résultat escompté du football français, tiens, on va décaler le match.
Que la Ligue a avantage des clubs français qui vont loin en Coupe d'Europe, ça peut paraître quand même assez normal, on va dire.
Jean-Christophe, Vous avez vu les compositions de Manchester City et d'Arsenal hier soir?
Alors justement,
oui, mais ça, on va y revenir.
Alors justement, moi je suis pas d'accord avec cet argument et ça tombe bien que vous soyez dans cette émission. C'est que on peut pas déjà comparer la Première Ligue et la Ligue 1 pour la simple et bonne raison que en Première Ligue ils sont 3 ou 4 en seulement un point, alors que nous, ouais, chez nous, ouais, le championnat est plié, donc eux ils ne peuvent pas, ouais, se permettre de faire tourner.
Ben oui, mais ils ont 3 ou 4 équipes et c'est ce qui fait tout l'intérêt et la richesse de la, exactement, Première Ligue, qui ont pour leur championnat un a priori totalement prioritaire. Voilà, j'imagine pas Manchester City, Liverpool, Arsenal ou quelque autre club que ce soit anglais vendanger et prendre le risque de vendanger un match en mettant une équipe B, C, D.
Oui, mais ça c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le PSG va être champion de France. Il pense à Barcelone. Ça peut se comprendre.
Je le conçois très bien qu'ils pensent à Barcelone. Je pense qu'ils ont suffisamment de moyens et suffisamment d'effectifs et suffisamment de joueurs pour faire une équipe mixte. Vous avez vu le banc de Paris hier soir?
Oui, oui, très bien. Même le 11. Hein.
Voilà, donc, encore une fois, je ne permettrai pas de porter un jugement sur les choix de Luis Enrique. Je dis qu'il y a un a priori qu'on ne peut pas laisser, malgré... le souhait et de voir Paris gagner la Coupe d'Europe, on ne peut pas pour autant accepter que le Paris Saint-Germain décide seul de l'issue du championnat pour les derniers classés, avec tout ce que ça comporte de jouer sa vie, quoi.
Même, j'ai envie de dire, et je te laisse la parole Marion, même si j'ai envie de dire que ce match face à Clermont, j'ai pas envie de dire que Clermont est condamné, parce qu'il reste des matchs évidemment,
mais
ce que je veux dire, c'est que Clermont, c'est pas l'équipe, c'est pas votre target, c'est pas sur le retour de Clermont que vous comptez, c'est sur vos matchs à vous évidemment, oui, mais c'est plus comme des équipes contre Nantes, Lorient, là c'est le dernier de la Ligue 1 qui est vraiment dernier.
Paris est un arbitre de ce championnat. Ils rencontrent Clermont, ils vont rencontrer Lorient et ils vont nous rencontrer. Voilà. Donc, je préfère anticiper en disant, on va pas vivre ça toutes les semaines avec, selon qui est l'adversaire, des équipes plus ou moins musquées. Paris est champion avec 12, je sais pas combien, ils ont 12 points ce soir, 13 points.
Ils ont 10 points d'avance. 10 points. 10 points avec la victoire de Brest.
Ouais. Ils peuvent rien leur arriver. Donc, ils sont champions de France. Voilà, ils ont largement les moyens d'avoir des équipes un peu remaniées, ça fait aucun doute. Mixte, ça fait un peu aucun doute. Mais pas pour autant, encore une fois, je vous dis, tout le sentiment qu'on a eu, nous, au club, cette semaine, c'est entre cette demande de décaler entre la 30, cette éventualité, c'est pas encore une demande, hein, c'est une éventualité, de décaler notre match entre la 33e et la 34e journée, et la petite cerise sur le gâteau, quand je dis la compo en entrée de Lens, et je vois la compo de Paris hier soir, je dis, bon là, c'est...
Non, mais voilà, on comprend bien que c'est une accumulation pour vous, mais c'est très intéressant que vous évoquiez effectivement la Première Ligue, parce que lorsque nous avons préparé cette émission avec Jean-Christophe Drouet, on était justement en désaccord sur ce point.
Ah, moi, totalement.
J'étais d'accord avec vous sur le fait que le problème qu'il y a en Ligue 1, c'est qu'aujourd'hui, il y a un club avec un énorme budget, et que les autres clubs n'ont pas du tout ce budget-là, donc ne peuvent pas avoir les mêmes effectifs, donc ne peuvent pas vraiment rivaliser. Alors même s'il y a eu des exceptions et même si parfois effectivement le PSG n'a pas été champion et d'autres équipes sont arrivées à réaliser cet exploit d'être champion de France, sur le nombre de championnats répétés, on voit très bien que le PSG est encore plus cette année une domination.
Oui, mais encore une fois, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain gère son équipe et gère son calendrier.
Laisse-moi terminer. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que si on veut avoir un championnat français plus attractif, il faut avoir d'autres grosses écuries,
oui,
comme ils l'ont en Première Ligue. Mais effectivement, que Luis Enrique, à ce stade de la compétition en Ligue 1, où c'est complètement plié, fasse lui tourner, parce que s'il a un de ses titulaires qui a malheureusement à une grosse blessure contre Clermont, on va lui tomber dessus à bras raccourcis, en particulier sa direction, en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, tu fais n'importe quoi, tu n'es pas capable de gérer un effectif, le championnat est déjà plié, tu mets les titulaires. Donc en fait, chacun raisonne sa position, et là c'est là où je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec le président du Havre, et je suis d'accord avec toi, JC. Mais le problème de fond, c'est que malheureusement il y a trop de déséquilibre, et trop de déséquilibre va finir par tuer la Ligue 1. Si aujourd'hui il y a des problèmes,
oui,
pour vendre
autre,
des droits de Ligue 1, c'est à cause
mais
de
c'est
ça.
C'est un autre débat.
Mais oui, mais c'est important, c'est important de le prendre en ligne de compte, parce que c'est obligatoirement ça rentre en ligne de compte.
J'imagine que dans sa carrière de président, Jean-Michel Roussier a déjà vu son propre entraîneur faire tourner dans un match parce que 3 jours après, il y avait peut-être un match plus important.
Enfin, il y a faire tourner, t'as 2 jeunes de 17 ans qui ont quand même joué. Faire tourner quand même.
Luis Enrique a dit ce sont des joueurs de l'effectif. J'imagine président,
oui, Des joueurs d'effectifs. Tu les connais même pas, tu sais même pas qui c'est. Joueurs d'effectifs.
Je connais les effectifs. Oui, Jean-Michel.
J'ai une double chance d'abord de présider un club qui a un très très fort centre de formation. On était second au classement des centres de formation encore l'année dernière. Et avoir un coach qui fait beaucoup jouer les jeunes. Donc, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit de faire jouer des garçons de 17 ans. On en avait 4, qui a un peu plus de 17 ans, qui étaient sur la pelouse de Lens hier encore. Je dis simplement qu'on est vraiment dans le money time. Alors, on n'est plus dans le money time pour Paris. Le money time de Paris, c'est le Barça la semaine prochaine, c'est plus le championnat. Mais tous les autres, on est dans le money time. Voilà, à part Lyon, tout le monde est dans le money time. Mais que... quand je parle de manque de respect, c'est la sensation, mais c'est plus qu'une sensation, que des clubs comme nous, on est juste là pour faire le nombre. On est là pour être à 18, et puis c'est pas ça qui est le plus important. Oui, sauf que des clubs comme le nôtre, ils doivent pouvoir vivre, ils ont largement leur place en Ligue 1, à eux de le prouver, mais de le prouver sur le terrain. Et on attend des clubs comme Paris qui aient un minimum de respect de l'équité sportive. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est clair, vous avez clarifié cette position. Juste, vous n'avez pas peur que ça énerve les Parisiens, là, vous qui les affrontez dans quelques jours?
D'abord, j'espère que je les affronterai le 27 avril et on verra quelle composition Luis Enrique. Mais non, je m'en fous un peu d'énerver. Mon souci, c'est défendre les intérêts de mon club. Voilà.
Merci Jean-Michel Roussier d'être venu nous voir et d'être venu vous expliquer dans Bartoli
Time
sur RMC. Et bonne fin de saison à vous, évidemment, et à tous les joueurs havrais et à votre club. 19h57, dans quelques instants, Thibaut Giangrande pour l'After Live en direct de Nantes, Nantes-Lyon. Match à huis clos, mais match très intéressant de la 28e journée de Ligue 1. Salut Marion.
Merci JC, merci de m'avoir accompagné pendant cette heure. Merci mes chers auditeurs de nous avoir écoutés également pendant cette heure de Bartoli Time, où c'est pour nous à chaque fois un régal. Je vous laisse dans les mains expertes de Thibaut pour continuer la soirée avec nous sur RMC. Et puis je vous retrouve bien évidemment avec un immense plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Bonne semaine à tous, au revoir.
RMC, 19h-20h,
Bartoli Time.